C'est donc le sujet que j'ai choisi de partager avec vous ce matin. Un texte qu'on trouve dans Hébreux au chapitre 12. Et vous pouvez peut-être ouvrir vos Bibles parce qu'on va rester sur ce texte et voir un petit peu aussi plus haut au chapitre 11. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le texte? Un texte, je vais juste prendre ma souris qui est ici, quelque part, je vais juste dessus ici pour passer les images. J'aime la course à pied, je vous l'ai déjà dit, vous le savez pour certains, et y a une course dont je vous ai déjà parlé, je voudrais juste vous en reparler comme introduction. À laquelle j'ai participé en tant qu'adolescent, c'était un 4 fois 1000 mètres. Il s'agit sur 1000 mètres, c'est 2 tours et demi de stade, et c'est un relais, et il faut donner là tout ce qu'on a. Et on fait le premier tour, et puis je vous dis qu'après, les poumons brûlent. C'est terrible, mais c'est une belle course. Il s'agit de donner toutes ces tripes pendant environ 3 minutes 15. Vous savez, dans les écoles en France, c'est pas comme dans les écoles américaines où quand on va dans une compétition, y a une partie de l'école qui est là autour du stade pour vous dire « allez, allez, allez ». Ici, il n'y avait personne, quoi. Il y avait juste nous, les 4 coureurs, le prof de sport qui nous accompagnait. Et puis, bien sûr, les autres coureurs qui étaient là, pour participer et quelques athlètes là qui faisaient d'autres compétitions. Et puis c'est la première fois que je courais ce genre de course et celui qui terminait la course avait un peu plus d'habitude et il était en club et puis il me dit écoute, tu vois le gars qui est là, lui c'est un bon. Ce que tu fais, moi je commençais la course, dit, tu te mets juste derrière lui et tu essaies de t'accrocher au maximum. Donc la course commence, je me mets juste derrière lui et je m'accroche au maximum. On fait un premier tour de piste et tout à coup, j'entends « Allez, Pierre, allez, Pierre !» Je dis « Qui est-ce qui est en train de m'encourager comme ça ?» Et je regarde et je vois deux sœurs de l'église qui étaient scolarisées aussi, qui participaient à une compétition, mais qui étaient là pour m'encourager. Et puis, elles me disent « Dépasse-le, dépasse-le !» Et tout à coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais comme des ailes dans le dos, je suis passé devant et je voyais que le gars, il peinait. Et moi, c'était facile. Et j'ai commencé à le dépasser. Et finalement, je suis arrivé premier, loin devant. Et cette course, elle me plaît dans mon souvenir, non pas parce que je suis arrivé premier, une des rares fois où je suis arrivé premier, mais c'est parce qu'il y avait cet encouragement-là. Et c'est cet effet de l'encouragement que j'ai reçu de Angèle et Sylvie qui m'a bouleversé. Ainsi donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de citer en Hébreux 11 les héros de la foi, en commençant par Abraham, il commence par Abel, et puis il va à Enoch, et puis il passe par Abraham, et puis il y a ce passage qui est à la fin du chapitre 11, qui dit ceci, D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans des cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et bien sûr, cette nuée de témoins, elle nous entoure. Ces gens qui ont vécu avant nous, nous entourent. Et dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9, Jean voit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de Dieu et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et est-ce que cette nuée de témoins nous entoure réellement, nous? Est-ce qu'ils nous entourent de leur présence invisible? Est-ce qu'ils sont les spectateurs de notre course dans le stade? La comparaison de la vie chrétienne avec une course dans un stade, c'est pas nouveau. Hein. Paul l'emploie dans de nombreux passages. Et notre vie est une course, finalement. En mars 1994, Philippe Croizon a été touché par un arc électrique de 20 000 volts en réparant une antenne sur le toit d'une maison. Et donc, on a dû l'amputer de ses quatre membres, de les deux bras, les deux jambes. Et le 18 septembre 2010, on a entendu parler de Philippe Croizon un peu partout en France et en Angleterre, parce qu'il réussissait la traversée de la Manche à la nage en 14 heures, après seulement 2 ans de préparation. Il partait d'un niveau de forme très bas, et son entraîneur, Valérie Corbel, disait « Quand je l'ai rencontré la première fois en septembre 2008, il était incapable de faire de longueur. Il n'avait pas du tout la condition physique. » Dans un interview dans le journal britannique The Independent, Philippe Croizon dit ceci. « Deux solutions s'offraient à moi. Mourir ou me reconstruire. J'ai choisi de vivre. Je fais d'abord cela pour moi-même, mais aussi pour montrer un exemple. Je veux montrer au monde que cela est possible. » Et depuis, Il a traversé les cinq continents, enfin, il a rejoint les cinq continents à la nage, en passant à Gibraltar, et il y a un petit garçon qui est né sans bras et sans jambes, et qui le suit comme son héros, bien sûr. Et un jour, il lui a écrit, et Philippe Croizon a voulu le rencontrer, et maintenant, ils sont inséparables. Et ce petit garçon qui n'a ni bras ni jambes comme lui le suit dans tous ses exploits. Et c'est devenu une source d'inspiration pour ce jeune garçon. Et pour lui, quelque chose d'extraordinaire de partage. Peu d'entre nous, heureusement, auront à faire face dans notre existence à ce genre d'épreuve. Mais on a tous à faire face à l'adversité, aussi petits ou grands que soient les obstacles qu'on peut traverser dans la vie. La maladie, les problèmes familiaux dans son couple ou avec ses enfants, le deuil, ou encore faire face à un péché dans la vie, avec ses conséquences, une faiblesse. Nous avons tous à lutter, et on lutte tous contre quelque chose. Ça, c'est sûr. Et vous avez déjà probablement prié de nombreuses fois pour être délivré d'un de ces problèmes. Et puis, il reste là, toujours. Il faut rester avec. Il faut faire avec. Il faut faire avec le fait de vivre sans bras et sans jambes, ou handicapé quelque part, ou avec une souffrance, ou avec un deuil qui ne se fait pas. Dans le 12e chapitre d'Hébreux, l'auteur compare la vie à une course. La course à laquelle nous sommes appelés n'est pas une course qu'on fait pour soi-même, à l'instar de Philippe Croizon qui le fait pour lui, mais on court pour quelque chose qui nous dépasse. C'est une idée d'offrir sa course à quelqu'un, offrir sa course en sacrifice. Et il y a cette phrase que j'aime bien, c'est qu'il faut avoir un but plus grand que soi-même pour pouvoir offrir sa vie. On court pour Jésus-Christ. Et on pourrait dire avec Paul, ce n'est plus moi qui cours, mais Christ qui court en moi. Ou encore, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire ou de la victoire. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Et ce n'est pas une course dans laquelle on se demande comment je vais m'en sortir, mais plutôt comment continuer à vivre et à grandir dans cette situation. Alors, comment est-ce qu'on peut courir cette vie à laquelle nous sommes appelés? Comment courir cette course? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne trois conseils dans le passage que nous avons lu. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, de le faire avec persévérance et d'avoir une passion pour Jésus, c'est-à-dire les regards fixés sur Jésus-Christ. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous voyez, les coureurs, ils ne courent pas avec un manteau et des gros pantalons et des grosses bottines. Non, ils ont des vêtements légers, juste ce qu'il faut pour la décence. Bien que les coureurs auxquels fait référence probablement l'apôtre, si c'est l'apôtre Paul qui écrit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, s'il faisait référence à des Grecs qui couraient dans le stade complètement nus. Les coureurs dans les stades courent avec un petit short et un t-shirt léger. Ils se débarrassaient de tout ce qui entravait la vitesse de leur course. Et en y réfléchissant, qu'est-ce qui entrave la course de votre vie? Il y a des choses qui peuvent entraver la course d'une vie. Ça peut être des problèmes d'attachement, des soucis, de l'anxiété, des angoisses, légitimes ou illégitimes, qui entravent ma course. Ça peut être aussi des choses même qui arrêtent ma course, des coups qu'on peut recevoir dans la vie, un deuil. Mais ce dont fait référence ici l'auteur, c'est il parle du péché. Et l'épithète qui vient derrière le mot péché, c'est qu'il nous enveloppe si facilement. On va mettre plutôt que péché, on va parler de l'erreur ou de rater sa cible, on disait ça, de passer à côté de son bonheur. C'est ça. C'est comme un vêtement qui nous enveloppe si facilement. L'apôtre Paul le décrit en Romains 7, versets 15 à 25, on ne va pas le lire. Mais si ça vous intéresse, lisez un petit peu comment ce péché agit dans notre corps. Comment cette erreur peut agir dans notre corps. C'est parfois juste une mauvaise perspective. On regarde la vie d'une manière pas juste. Philippe Croizon a dû changer son regard sur son existence. Il a dû changer son regard sur ce qu'il voulait faire de sa vie. Il y a un film que j'aime bien qui s'appelle Les chariots de feu, qui raconte l'histoire d'un coureur qu'on appelle Eric Liddell et qui a gagné aux Jeux Olympiques de 1902 à Paris. Il est ensuite devenu missionnaire en Chine, où il est mort. Et il n'a plus jamais fait de compétition après cela. Il a juste couru les Jeux Olympiques. Alors c'était un joueur de rugby au départ. un 3 quarts réel, et puis ils couraient tellement vite qu'ils se sont dit, ben, on va le mettre en course à pied. Et dans un film qui s'appelle Les Chariots de Feu, on raconte son histoire et je vais vous montrer un petit extrait. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la culpabilité. Il ne veut pas que quand on tombe, que ça s'arrête là, quoi. Oh, je suis nul, je suis nul. Ça, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous empêche d'avancer. Quand il dit rejeter tout fardeau, c'est rejeter cette culpabilité-là aussi, parce que quelqu'un l'a prise à notre place, et vous le savez. Il ne veut pas qu'on se ramène constamment au péché. Constamment, ah ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça dans ma vie. Je suis un pourri. Peut-être c'était ton ancienne condition, mais aujourd'hui tu ne l'es plus. Tu es appelé fils du Dieu vivant. C'est ta nouvelle condition. Ça, c'est juste pour un petit encouragement. Ah mince, je vais devoir revenir en arrière. Je maîtrise pas le truc. J'étais content déjà d'avoir pu. Alors, normalement il y a du son, mais il n'y en aura pas assez aujourd'hui.
La Seine-Nièvre.
Ce que vous n'avez pas entendu, c'est qu'à un moment, il y a son ami qui commence à douter, et son ami qui est là, qui est son entraîneur, lui dit ceci, il dit, certes, son corps est derrière, mais sa tête est encore devant. Et on l'a pas entendu là, c'est en anglais. Et cette remarque, son corps est derrière, mais sa tête est, enfin, son corps est derrière, mais sa tête est encore devant. C'est quelque chose qui doit nous faire comprendre quelque chose. C'était le but de vous présenter cela. Quand on tombe, Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Il est déjà victorieux pour nous. L'Épître aux Éphésiens nous dit dans le chapitre 2 que nous siégeons déjà à la droite de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est assis sur un trône, je ne suis pas assis sur un trône, mais Christ est assis sur un trône et en lui, nous siégeons déjà à la droite de Dieu parce que c'est là, c'est notre destinée, c'est la fin de notre course. Notre tête est déjà devant. Elle est encore devant par Jésus-Christ. Alors si nous tombons, il faut se relever et avancer, sachant que la victoire, elle est là et elle doit se prendre. Cette liberté qu'on a dans notre course de savoir que la victoire, elle est déjà remportée, eh ben on l'a en Jésus-Christ, c'est de se savoir pardonner, quoi qu'il arrive. Ça doit nous donner l'endurance nécessaire, et puis aussi la joie, même dans les épreuves, quand nous tombons, de pouvoir se relever. Vous dites, ça c'est que dans les films, vous allez sur Internet. Je regardais une course, c'était quatre femmes qui couraient une compétition nationale américaine. Et la première trébuche, elle tombe, mais sur la face, comme ça, directement, sur la face, sur le tartan. Et puis donc, la caméra suit les trois autres, et puis tout à coup, on voit cette femme arriver derrière. Elle double la troisième, la deuxième, et puis elle finit la course première. Et puis elle est là, comme ça, elle est arrivée première, mais elle ne se rend pas, même pas compte de son exploit. De son exploit. Mais Ça, c'est la vérité dans cette vie. Philippe Croizon, personne ne connaîtrait son nom s'il n'avait pas perdu ses bras et ses jambes. Mais aujourd'hui, c'est un héros, Philippe Croizon. Courons avec persévérance. Romains 6, 7, 8. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et ça, c'est l'assurance qu'on a d'avancer. Courons avec persévérance. Quand les temps deviennent difficiles, c'est là où on parle de persévérance. La persévérance, on n'en a pas besoin avant que ça devienne difficile. C'est quand c'est difficile qu'on doit persévérer. Et la persévérance, ce n'est pas comme la persévération. La persévération, c'est des gestes qu'on ne fait pas, sans même savoir pourquoi on les fait. C'est un tremblement. C'est une persévération dans le geste. Non, la persévérance, c'est quelque chose qu'on a pensé, qu'on fait en toute conscience. Persévérance. Dans les temps difficiles, c'est la persévérance dont on a besoin. Quand on tombe trois fois, on se relève une quatrième. Il faut continuer à se relever. Et ce passage nous invite à regarder l'épreuve non pas comme une interruption de notre vie ou une interruption de notre course, mais comme faisant partie complète de notre existence. Même le péché. Courez avec persévérance la carrière qui vous est offerte ou la vie qui est la vôtre, dit l'apôtre. Autrement dit, nous sommes appelés à vivre notre vie dont font partie les épreuves. Et cette course n'est pas seulement votre course, mais cette course, elle est aussi celle de Jésus qui court avec nous. Nos vies ont un but, et ce but, il est éternel. On ne le connaît pas précisément. Certains connaissent plus précisément le but de leur existence, d'autres, ils ont plus de mal. À quoi ça sert, ma vie ? À quoi ça sert ? Et la pensée que ma vie, même si je ne comprends pas très bien, a un but, eh bien ça m'aide. Cette pensée m'aide, et surtout dans les moments difficiles. Jacques écrit dans son épître, chapitre 1, que la persévérance dans l'épreuve produit la patience et que cela nous conduit à la maturité et au perfectionnement. Nous avons été appelés à vivre cette vie, et quand vient l'épreuve, c'est important de se souvenir que cette course-là, c'est Dieu qui nous y appelle. C'est notre course. C'est lui qui nous a mis sur la ligne de départ. Il y a une petite photo là. C'est en 1968. John Stephen Aquari a été choisi par son pays, la Tanzanie, pour participer au marathon des JO de Mexico. Et durant la course, il est tombé. Et il a été blessé au genou et à la cheville, et des gens lui ont refilé des bandages, il s'est bandé la jambe comme ça, comme il pouvait. Et vers 19h, alors qu'un Éthiopien avait remporté la course depuis bien longtemps, le stade était en train de se vider. Et puis, vous savez que le marathon se termine dans le stade, et Aquari rentre dans le stade, et il y a les policiers qui l'applaudissent. Il est tout seul là, et les policiers l'applaudissent. Et les gens qui sortaient du stade se demandent qu'est-ce qui se passe. Et donc les gens commencent à revenir dans le stade. Et on annonce le dernier concurrent du marathon, Aquari, qui rentre. Et tout le monde commence à scander son nom, Aquari. Et il y a la vidéo sur Internet, vous pouvez la voir. Tout le monde commence à scander son nom. Il fait son tour de stade. Et puis là, il y a les journalistes, ils sont quand même impatients de venir le voir. Et ce qui brûlait la bouche de tout le monde, c'est pourquoi vous avez fini cette course, quoi. Il y a un côté un peu ridicule, quoi. Enfin, vous arrivez 2 heures après tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit, mon pays, la Tanzanie, ne m'a pas envoyé à 10 000 kilomètres pour faire une course. Mais il m'a envoyé à 10 000 km pour la finir. Je ne connais pas le nom du vainqueur, l'Éthiopien, de ce marathon. Mais lui, je connais son nom. En bon dernier qu'il était. Mais quelle victoire! Quelle victoire! Nous aussi, dans l'épreuve, on est encouragé par une nuée de témoins. Et on les connaît, ces témoins, qui ont témoin de nos souffrances, mais témoin par leurs propres souffrances aussi. Témoin de notre persévérance, mais nous sommes témoins de leur propre persévérance. Ce sont tous ces héros de la foi, ceux qui nous ont précédés, mais ceux qui ont déjà remporté la victoire, leur couronne, mais aussi ceux qui partagent notre existence et qui sont persévérants dans des petites choses, semble-t-il, pour eux. Mais pour les témoins, c'est tout autre chose d'aller jusqu'au bout. Hébreux 11, ce sont eux qui nous encouragent. Comme nous, ils ont les yeux fixés sur Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité et Christ glorifié. Et la persévérance nous vient de l'encouragement que l'on peut recevoir de cette nuée de témoins qui nous entoure, à travers les Écritures, que je vous encourage à lire et à relire, mais aussi à travers les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres, avec des gens extraordinaires, dans des vies tout à fait ordinaires, mais qui sont extraordinaires pour nous. Et puis il y a autre chose, il y a la prière persévérante de nos proches qui est un encouragement inestimable. Ces cris d'encouragement que nous n'entendons pas, ces gens fidèles qui prient toujours pour nous. Il y a Philippe Yancey qui est l'auteur de nombreux livres et qui écrit là dans la prière, qui parle d'une petite dame. Je vais juste vous le lire quand même, on a un petit peu plus de temps. Il travaille dans le jardin d'une vieille dame et elle lui dit « Tu dois avoir faim après tous ces coups de pelle. Laisse-moi te chercher une tranche de tarte aux pommes. Tu aimes la tarte aux pommes? Ne bouge surtout pas, je te ramène de la tarte. » C'était une veuve de 80 ans et je savais qu'il lui faudrait au moins 10 minutes pour se rendre à la cuisine. Sans compter le temps de sortir la tarte, je me suis assis à table en me demandant combien de temps j'aurais à patienter avant d'avoir mon argent et de pouvoir m'en aller. La marque d'attention était typique de la Nouvelle-Angleterre. Une pâte légère et dorée, des pommes toutes chaudes et du lait froid dans un grand verre. J'ai tout dévoré. Elle s'était à peine assise au bout de la table pour manger une part qu'elle remarqua mon assiette vide. « Laisse-moi te chercher une autre tranche. » Pas question de refuser. Elle était dans la cuisine avant que je n'aie pu ouvrir la bouche. C'est marrant de voir la vitesse avec laquelle elle se déplaçait parfois. La tarte était bonne. Le lait glacé et je n'ai fait qu'une bouchée de cette seconde offre. Mais elle n'arrêtait pas de parler, c'était la hantise secrète de notre voisinage, être retenu par Madame Bach. Nous avons tous, il dit ceci et j'en ai une, hein, Madame Bach dans notre vie. Même à ce jeune âge, je me suis demandé comment quelqu'un peut-il ne pas voir une évidence, comment ne remarquait-elle pas que je voulais m'en aller. Environ 10 ans plus tard, un lundi après-midi, quelque chose m'a dit que je devais en parler à Madame Bach. Le vendredi soir précédent, lors d'une fête de célibataires à Harvard Square, j'avais découvert Jésus. Je n'avais encore rien dit à personne, mais je savais que je devais le dire à Madame Bach. C'était un bel après-midi de printemps et la vieille dame étendait son linge. Je me suis approché de la clôture. « Madame Bach, savez-vous ce que signifie naître de nouveau ?» Elle laissa tomber ce qu'elle tenait et me regarda toute surprise et joyeuse. « Oui, je le sais. » Elle avait été une épouse de pasteur après tout. « Eh bien, l'autre nuit, je suis née de nouveau. » Elle me regarda et dit d'une voix ferme, « Ne bouge surtout pas. » Je suis resté dans l'entrée, près de la clôture, à la regarder remonter en clopinant les escaliers vers la porte arrière à l'aide de sa canne. 10 minutes plus tard, elle revint, se dirigea vers moi et me tendit la part de gâteau au chocolat la plus grosse et la plus délicieuse que je n'ai jamais mangée. Elle sourit et dit « Vas-y, mange !» et j'ai dévoré ce gâteau tandis qu'elle me regardait en se réjouissant avec moi. Finalement, elle parla. « Pendant les 15 dernières années depuis que tu es venu habiter dans le coin, j'ai prié chaque jour pour toi et pour Paul, un ami qui habite de l'autre côté de sa maison. J'ai prié chaque jour pour que tu puisses connaître Jésus. La prière persévérante. Et je sais qu'il y a des gens qui ont prié chaque jour pour moi aussi. Et puis, il y a le Saint-Esprit, notre consolateur. L'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit, il intercède pour nous et il dit par des soupirs inexprimables quand on prie soi-même, de se laisser, des mots qui nous manquent, on ne sait plus quoi dire tellement on est dans la souffrance et le Saint-Esprit intercède pour nous. La troisième chose, c'est une passion pour Jésus, ayant les regards fixés sur Jésus. Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi, nous dit la parole. Il est au commencement de la course et il est à la fin de la course. Il est le commencement, la fin, il est l'alpha, l'oméga. Jésus a souffert physiquement, mais aussi il a connu la honte, il a connu l'ignominie. Il a été tenté en toutes choses, nous dit la parole, et c'est Hébreux qui nous le dit. Et il a été victorieux. Joseph Damien, missionnaire danois, dans une léproserie près des îles d'Hawaï, au XIXe siècle, avait consacré sa vie aux lépreux, à les soigner, et puis c'était lui qui leur enseignait la parole. Et le dimanche à l'église, il accueillait toujours « mes amis lépreux ». C'est comme ça qu'il accueillait sa communauté de lépreux. « Mes amis lépreux, mes amis croyants ». Et un jour, après quelques années passées dans cette léproserie, il se servait un thé et le thé brûlant est tombé sur sa cuisse. Quelle fut sa surprise quand il s'est aperçu qu'il ne sentait rien à la cuisse. Il avait perdu toute sensibilité au niveau de la cuisse. C'était un dimanche matin et lui-même s'est aperçu qu'il était lépreux. Comme chaque dimanche matin, il est arrivé à l'église et a accueilli sa communauté. Bienvenue, mes frères lépreux. Et il a continué son ministère, vous voyez, avant et puis pendant la maladie de la lèpre. Nous sommes appelés dans cette existence à vivre des choses qu'on ne va pas comprendre. La croix, c'est quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi cette croix-là? Pourquoi cette souffrance-là? C'est ce sang répandu. Pourquoi? À quoi ça sert? Mais vous savez au fond de vous à quoi ça sert. Pourquoi j'ai cette épreuve dans la vie? Pourquoi je vis ces choses-là? C'est peut-être pas nécessaire, semble-t-il, mais le Seigneur va en faire quelque chose. Il va en faire quelque chose d'utile. Soyons donc persévérants, en nous laissant encourager par nos frères et sœurs, par la parole, par la prière. Et puis, ne pas oublier d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ. Parce que c'était bien une passion pour Jésus-Christ que le frère Damien avait. Passion pour sa parole. Passion pour les gens qui partageaient sa vie. Les yeux fixés sur Jésus-Christ.
Il y a un pasteur qui disait « La souffrance est rédemptrice ».
C'est celui qui souffre qui peut le dire.
Voilà.
Nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quelle est votre carrière ? Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu auquel nous avons part Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette parole qui nous éclaire. Merci pour ta vie, Jésus, pour ton exemple, pour l'amour dont tu fais preuve à notre égard, malgré tout. Merci Seigneur pour l'Église, les frères et sœurs qui nous entourent, pour tous ceux qui nous donnent des exemples de vie extraordinaires, Seigneur. Bénis-les, bénis-nous, par le nom de Jésus-Christ. Amen.